Aperuit illis. Il leur ouvrit les yeux à l'intelligence de l'écriture. C'est par ces mots et ce rappel de l'événement de Jésus qui explique, qui donne l'intelligence de l'écriture aux disciples d'Emmaüs au soir de la résurrection, que le pape a voulu écrire une lettre apostolique à vous, à nous, pour proclamer le dimanche de la parole de Dieu, non pas que c'est un truc bizarre une fois dans l'année, mais c'est un commencement au début de l'année pour que nous puissions apprendre à accueillir, à chérir, à écouter la parole de Dieu comme elle le mérite. Trop souvent, la parole de Dieu reste pour nous quelque chose de tabou. On lit l'Ancien Testament, on dit on comprend rien, c'est des histoires bizarres, c'est comme le journal. Pourtant, le journal, on a l'air de le comprendre. Et quand on essaye de méditer sur l'Évangile, bien souvent, on reste un peu sec, on n'a pas trop d'idées. Le pape, et je le cite dans le numéro 5 de cette lettre, nous dit « Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l'Écriture sainte pour qu'elle soit accueillie non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. » Dans la liturgie, d'une manière solennelle, c'est cette parole qui vient à nos oreilles, un peu comme dans un groupe de prière, on prie pour quelqu'un de particulier et on lui donne une parole qui le touche, qui le frappe. Et ici, c'est cette parole qui nous touche, qui nous frappe, qui est appelée à rentrer dans nos cœurs. Alors effectivement, si nous ne lisons pas la parole, si nous l'entendons occasionnellement des petits bouts, un petit bout chaque dimanche, nous n'allons pas comprendre. Imaginez un peu prendre un roman et lire un paragraphe, une page, un peu, même pas dans l'ordre, une fois par semaine, nous ne comprendrons pas. Mais la Bible, elle est cette parole de Dieu, il faut y consacrer du temps. J'ai enterré quelqu'un cette semaine dont l'événement principal de sa vie fut de travaillant à l'usine, et une compagne de travail qui venait de se convertir lui a dit « Mais il faut lire les textes, un livre en entier, il ne faut pas lire par petits bouts. » C'est quelqu'un qui aimait bien déjà les petits bouts, et qui a lu comme ça l'évangile de Saint Jean en entier, et qui dit que je me suis réveillé avec une identité nouvelle, comme prise à l'intérieur de cette écriture. Vous voyez, c'est en la fréquentant, en la chérissant, en la transmettant. Alors il y a multiples manières de le faire, mais demandons la grâce de l'accueillir comme cette parole qui vient nous transformer, cette parole qui vient agir en nous, non pas simplement une parole qu'on entend, mais de laisser, parce que cette parole, c'est cette rencontre avec Jésus. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons un commencement de la parole que Jésus adresse, et ici, c'est le résumé c'est le résumé de toute sa prédication. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et pour ce faire, eh bien, il cite l'Ancien Testament. Il cite un texte d'Isaïe que nous avons lu en première lecture et qu'on a relu à l'intérieur et qu'on a lu d'ailleurs la nuit de Noël. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est cette lumière que nous sommes appelés à accomplir. Et c'est intéressant justement comment Jésus, et quand il ouvre l'intelligence de l'Écriture aux ses apôtres, il montre que toute l'Écriture, l'Ancien Testament comprend, prie, parle de lui. Et ici, nous avons un exemple. Le prophète Isaïe, quand il prononce cet oracle, ça peut paraître un peu bizarre parce que vous savez qu'il y a deux royaumes, le royaume du sud et du nord. Isaïe est au sud et Zabulon, Nephtali, route de la mer, c'est pays du Jourdain, c'est des régions qui sont dans le royaume du nord. Et à cette époque, ces pays sont déjà envahis par la superpuissance qu'est l'Assyrie à l'époque. Et d'ailleurs, le royaume du Sud n'est pas beaucoup mieux. Il a gardé sa liberté, mais en payant tribut et en étant soumis à l'Assyrien, alors que le pays du Nord était plutôt dans la révolte et se sont fait laminer. Et le prophète Isaïe lui-même fait déjà une mémoire de l'action du Seigneur, parce que c'est ça la Bible, ça fait l'action du Seigneur et on en garde la mémoire. Et il annonce cette grande lumière qui reprend dans la même région un événement beaucoup plus ancien du temps du juge Gédéon, qui est appelé à libérer le peuple des Madianites et qui pour ce faire ruse et prend trois fois 100 soldats, et non pas toute une armée entière, qui invite chaque soldat à prendre une trompette, et puis une cruche et une lampe dans la cruche, et qui entoure le camp, et qui, au son de la trompette, casse la cruche, et ça fait une grande clarté qui entoure le camp, et les ennemis ont l'impression que c'est une armée immense qui est en train de les attaquer, et ils sont défaits. Le pays de l'ombre de la mort. Et ici, Jésus reprend cette annonce de cette entrée, de l'arrivée de la lumière, pour parler de ce qui va se passer en Galilée, justement, Galilée des nations, ce pays du Nord, où Jésus va prêcher et où il va allumer une grande lumière dans les cœurs. Quelle lumière ? On dit que Jésus quitte Nazareth. Nazareth, c'est un nom symbolique, qui n'est pas directement dans l'Ancien Testament comme une ville, mais qui résonne comme le netzer, le germe de la souche de Jessé, qui c'est un des titres du Messie et qui a une assonance qui fait penser cela. Mais Jésus va dans ce que saint Marc appellera plus tard sa ville, qui est Capharnaüm, Capharnaüm, c'est-à-dire le village de la consolation. Et c'est un mot qui est important, c'est vraiment le quartier général, j'allais dire, de Jésus, le centre de Jésus en Galilée, parce que ce que Jésus vient faire en prêchant le royaume des cieux, c'est d'apporter la consolation. Et déjà là, ça résonne dans la Bible, écoutez ça. Isaïe 49, 13, « Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres, il a compassion. » Voilà quand Dieu vient, ce qu'il fait. Ou encore deux chapitres plus tard, toujours dans le même prophète Isaïe, « Moi, je suis celui qui vous console. » Et vous savez bien que dans le début de la deuxième épître aux Corinthiens, qui commence par une bénédiction, c'est le point de départ de la prière chrétienne, avec que saint Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. » Alors, Capharnaüm, d'ailleurs c'est ici on nous dit, c'est Capharnaüm. La traduction met « ville située au bord de la mer de Galilée », mais en fait, si vous regardez le texte original, c'est littéralement « Capharnaüm sur mer ». Alors, c'est la consolation, le village de la consolation sur la mer. Et qu'est-ce que la mer? Même si ici c'est un grand lac, puisque toute étendue d'eau un peu grande, on appelle ça en hébreu une mer, eh bien, c'est le monde ambigu dans la représentation biblique de la mer. C'est le monde des forces du mal, c'est là qu'habite Léviathan, les forces du grand péché d'orgueil. Et écoutons encore ce que nous dit la Bible pour nous enseigner. Isaïe 57, « Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la boue et la vase. » Ou encore le psaume 88, « C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » Et vous entendez bien Jésus qui accomplira ce verset en calmant la mer. Vous avez encore dans l'épître de Saint Jacques, demandez avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Vous voyez, c'est l'inconstance, le manque de foi. C'est-à-dire la foi qui est cette adhésion, qui est cet engagement, qui est l'engagement de l'intelligence, de tout l'être à la suite du Seigneur, eh bien, y est opposé le manque de foi, l'inconstance qui nous laisse au gré des vagues de la mer, du monde. Donc le Seigneur vient nous consoler en nous prenant là où nous sommes, dans ce monde de ténèbres et de péché qui est représenté par la mer, Capharnaüm sur mer. Donc le peuple a vu une grande lumière. La parole de Jésus, la parole de Dieu est appelée à cette grande lumière. Et c'est une lumière qui vient nous délivrer du pouvoir de Satan. Écoutez ce que le Seigneur dit à Saint Paul, et à ses disciples. « Moi, je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. » C'est donc la mission des disciples. Convertissez-vous. Et vous voyez, il y a ici un petit mot aussi qui est important dans l'évangile de Matthieu, qui revient deux fois, deux commencements. Ici, le chapitre 4, « À partir de ce moment-là, Jésus se mit à proclamer, « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. » Et on aura au chapitre 16, « À partir de ce moment-là, après la transfiguration, eh bien, Jésus commença à leur parler de comment il allait sauver le monde, de sa montée à Jérusalem et de la passion, du mystère de la croix. Ce nouveau commencement, c'est une nouvelle manière de Dieu d'être présent, cette proximité du royaume. Et je voudrais vous citer un petit texte de Benoît XVI, justement sur cette proximité du royaume. Cette nouvelle forme de proximité dont parle Jésus et dont la proclamation constitue le trait distinctif de son message, cette proximité nouvelle, c'est Jésus lui-même. Par sa présence et son action, Dieu est entré dans l'histoire d'une manière nouvelle. C'est pourquoi sont venus maintenant le temps de la conversion et de la pénitence, tout comme le temps de la joie, car Dieu vient à nous en Jésus. En lui, Dieu est maintenant celui qui agit et règne, qui règne d'une manière divine, c'est-à-dire non pas avec un pouvoir temporel, mais qui règne en aimant jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et voilà donc cette parole de Dieu. Convertissez-vous. C'est-à-dire quand j'entends la parole de Dieu, quand Jésus s'approche par la parole, je suis invité à bouger, à regarder comment elle a laissé transformer ma vie, à accorder à mettre au niveau de cette parole, à me laisser être mis au niveau comme Jésus qui vient, vous voyez, les guérissait tous. On a aussi, on avait dans le verset alléluiatique, là, il guérissait toute maladie, de nous laisser toucher. Mais vous savez bien que Jésus guérit, mais Jésus ne guérit jamais dans l'évangile en faisant « abracadabra, je veux que par ma puissance tu sois guéri ». Non, il s'approche, il touche, il entre en dialogue, il demande « quel est ton désir ?» et son regard, sa parole, eh bien, vient éveiller, mais il attend de nous que nous répondions par la foi. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois? Donc c'était cette lecture de la Bible que nous sommes appelés à faire avec foi, c'est-à-dire en engageant tout notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Demandons au Seigneur d'accueillir cette parole. Alors bien sûr, en découle après, vous voyez, l'appel des frères. C'est amusant, Jésus prend deux fois deux frères, hein, comme pour montrer eh bien cette dimension humaine, cette dimension familiale, parce que dans la communauté chrétienne, on s'aime comme les membres d'une même famille, d'un même sang, d'une même appartenance. Et il les appelle justement, alors laissant tout, vous voyez, c'est la conversion, il lâche les choses pour devenir pêcheurs d'hommes. Et c'est quoi justement pêcheurs d'hommes? Eh bien, c'est ceux qui vont, à la suite de Jésus, arracher au monde des ténèbres, arracher au monde du péché, au monde de l'orgueil, eh bien, les gens qui peuplent ce monde pour les faire rentrer dans cette lumière, dans cette paix que le Seigneur nous apporte.